www.cast.blogspot.com.
Septembre 1939, la France, suivant son allié anglais, déclare la guerre à l'Allemagne, dont les troupes viennent d'envahir la Pologne. Pendant 8 mois, les Allemands n'attaquent pas, c'est la drôle de guerre, sans le moindre combat. 8 mois après, le 10 mai 1940, les panzers de la Wehrmacht lancent une offensive dévastatrice. Ils déferlent bientôt sur le nord de la France, jetant ainsi près de 10 millions de Français sur les routes de l'Exode.
Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués.
Le 10 juin, 4 jours avant l'entrée des Allemands dans Paris, les ministres français se replient vers Bordeaux, où le 16 juin, le maréchal Pétain devient chef du gouvernement. Le lendemain, 17 juin, le vieux vainqueur de Verdun demande l'armistice à Hitler.
C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
À Londres, au même moment, un général français est déterminé à poursuivre le combat.
L'appel du 18 juin à 70 ans. Voici ce que vous auriez écouté sur Europe 1 le 18 juin 1940.
Europe 1, il est 19h, bonsoir à tous. Nous sommes le 18 juin 1940 et ce soir, la confusion est immense. Entre les espoirs de paix suscités par la demande d'armistice du maréchal Pétain, l'humiliation d'une France défaite et l'angoisse de voir l'ennemi nazi dominer notre pays, personne ne saurait dire quel sentiment l'emporte vraiment. C'est dans cet étrange climat de soulagement, de honte et de renoncement qu'un message surprenant a été enregistré il y a quelques minutes à la BBC. Un appel venu de Londres, un appel au refus, un mot auquel on a du mal à croire ce soir. Tout de suite, le journal avec vous, Patrick Cohen. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Marc, bonsoir à tous. Rien n'est perdu pour la France, la défaite n'est pas définitive, c'est donc le message étonnant lancé depuis Londres par un officier supérieur rebelle, ancien membre du cabinet de Paul Reynaud.
La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas.
Nous diffuserons dans un instant l'intégralité de cet appel avant de nous intéresser à son auteur, le général Charles de Gaulle, qui a commandé la 4e division cuirassée de réserve dans l'Aisne et la Somme.
Depuis 70 ans, le son de la BBC résonne dans les entrailles de la France libre. Jusqu'à 20h, écoutez sur Europe 1 l'édition spéciale que la rédaction vous aurait proposée le 18 juin 1940.
Nous vous le disions il y a quelques instants, ce message étonnant, l'a dit Patrick, enregistré tout à l'heure dans un studio de la BBC.
Oui, hier, vous le savez, depuis Bordeaux où siège le gouvernement de la France, le maréchal Philippe Pétain demandait à l'ennemi la signature d'un armistice. Eh bien ce soir, à la surprise générale, un officier supérieur de l'armée française se dresse contre cette décision dans un appel enregistré à la radio de Londres, la BBC, avec, on l'imagine, l'accord des plus hautes autorités britanniques. Écoutons d'abord cette allocution prononcée par celui qui était encore, il y a 2 jours, sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale, le général de brigade Charles de Gaulle.
Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non! Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.
L'histoire s'écoute sur Europe 1.
Vous venez d'entendre la déclaration du général de Gaulle. J'appelle à présent notre correspondant particulier à Londres, Emmanuel Faux, qui a pu assister aux préparatifs de cette émission radiophonique.
Oui Patrick, le général de Gaulle est arrivé en taxi dans les studios de la BBC à Portland Place, juste avant 18h, heure anglaise. Il venait de son nouveau domicile de Seymour Place, près de Hyde Park, où il avait passé l'après-midi à travailler sur son texte. À son arrivée, Charles de Gaulle, qui était accompagné du jeune diplomate et officier de réserve, Geoffroy Chaudron de Courcelles, a été accueilli par le directeur des informations de la BBC. Les deux hommes ont été conduits au studio 4B, au quatrième étage, mais monsieur Chaudron de Courcelles n'est pas entré. À l'intérieur du studio, le général de Gaulle est resté seul avec un technicien britannique. Il a retiré ses gants blancs, qu'il a posés à l'intérieur de son képi. Il s'est ensuite assis en face du microphone et il a commencé à lire son appel. Un appel qui sera sans doute très commenté dans les heures et les jours qui viennent, avec d'ores et déjà cette image extrêmement forte en guise de conclusion. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Il faut souligner que c'est la première fois depuis le début de l'occupation allemande que les mots « résistance française » sont employés. Et on peut donc dire ce soir que le général de Gaulle vient de lancer ici, de Londres, un appel à la résistance des Français. Premier appel, puisqu'il l'a dit, il s'exprimera à nouveau à la radio dans les tout prochains jours.
Emmanuel Faux nous parlait depuis Londres. Voyons à présent avec Yael Gauz qui est cet officier dissident de 49 ans qui a débuté la campagne de France comme colonel et qui n'est devenu général de brigade qu'il y a moins d'un mois.
Avec sa longue silhouette, son regard autoritaire et sa voix tout en trémolo, Charles de Gaulle, 49 ans, est un homme qui dérange. Un Saint-Cyrien qui connaît le combat, il a brillé pendant la Grande Guerre, le combat, le terrain et la vie secrète de l'état-major, au point de devenir, entre 1932 et 1937, l'un des stratèges de l'armée. Le colonel a des convictions atypiques, il agace ses supérieurs, car il prône la réorganisation totale de l'armée. Sa thèse, il faut miser sur les blindés, car le char, dit-il, bouleverse la tactique. C'est révolutionnaire, mais de Gaulle est minoritaire dans l'état-major. Les soutiens sont rares, il y a bien Philippe Pétain qui le recrute comme nègre pour l'un de ses livres, mais tout cela, c'était avant la brouille. Depuis, de Gaulle l'a publié sous son nom. Puis c'est la déclaration de guerre, septembre 39. Charles de Gaulle est à Metz, où il commande les chars de la 5e armée. Le colonel avait raison, sur tous les champs de bataille, les panzers allemands démontrent toute leur puissance. Au début du mois, de Gaulle monte en grade, le colonel devient général de brigade, un général qui se lance en politique. Passage éclair au gouvernement, 10 jours seulement, jusqu'à la démission de Paul Reynaud, remplacé depuis avant-hier par Pétain. L'armée française est en déroute, les ministres ont fui à Bordeaux. On se demandait où était passé le général de Gaulle. Eh bien, on a la réponse, il est à Londres et vous venez d'entendre son appel.
Oui, ici Patrick, ce sont les services d'écoute du ministère de l'Intérieur qui ont prévenu le gouvernement du maréchal.
général. C'est de cette façon que Philippe Pétain a découvert l'appel lancé par le général de Gaulle, ne suscitant d'ailleurs aucune réaction gouvernementale officielle. Un non-événement mépris, c'est le message qu'entendent faire passer les autorités. Seul l'amiral Darlan a commenté cet appel et l'a condamné.
Général français qui prêche la révolte depuis Londres, en ces heures tragiques où un officier se doit plus que jamais d'être fidèle à son pays, mérite pas la moindre attention. Désolé. Non. De Gaulle ne mérite que d'être destitué. Et c'est ce qui va lui arriver. Je vous prie de le croire. Et je ferai ce qu'il faut pour que ça arrive le plus vite possible.
Voilà la réaction de l'amiral Darlan sur Europe 1. Pierre de Cossette depuis Moulins sur l'Allier. On voit donc que la déclaration du général rebelle risque de rester lettre morte auprès des troupes combattantes. Cette résistance dont la flamme ne doit pas s'éteindre, selon les termes de cet appel, aura sans doute du mal à trouver des disciples au sein d'une armée en déroute.
Le général de Gaulle s'oppose totalement au maréchal Pétain. Avant même que l'armistice soit négocié, il fait comme s'il n'existait pas, comme si la vraie France n'était pas en France avec le maréchal, mais là où il est, lui, de Gaulle.
Vous voulez dire, Pierre-Marie, que les Français vont devoir choisir entre Pétain et de Gaulle ?
Oui, je le crois. Je le crois, d'un côté, pour le maréchal Pétain, la guerre est finie et nous offre sa garantie que l'honneur est sauf. Il nous promet aussi sa protection, mais il ne nous dit pas ce qu'il fera si la Grande-Bretagne résiste. Il ne nous dit pas où il voit la place de la France désarmée. Il ne nous dit pas comment elle pourrait être libre et digne dans un continent entièrement soumis ou allié aux nazis. Le maréchal veut mettre fin à nos épreuves, mais on ne sait pas à quel prix. De l'autre côté, le général de Gaulle nous demande d'accepter de nouvelles épreuves au nom de l'honneur et de la raison, parce qu'il est sûr qu'il est encore possible de vaincre l'Allemagne, comme en 1917, il attend les Américains, ça n'est pas absurde, à condition que l'Angleterre de Churchill tienne, or elle est ce soir totalement seule. En réalité, le maréchal nous demande d'avoir confiance en lui, de Gaulle nous demande de croire en nous. Alors oui, il y a un choix, c'est certainement le plus grave qu'on ait jamais eu à faire.
Merci pour cette analyse, Pierre-Marie Christin.
Tous ont entendu hier la demande d'armistice du maréchal Pétain. Beaucoup rentrent parce que les mots du maréchal les ont rassurés. C'est au milieu de la foule, agglutinée devant le poste de radio du café de la gare, que Martine et sa famille se sont décidés. Demain, ils retournent dans le Nord.
On rentre, on revient à Valenciennes. Ça fait un mois qu'on est sur la route. Ça fait un mois qu'on marche et on est fatigués. Voilà, j'ai les enfants avec moi là. Ils sont fatigués. Moi aussi, je suis fatiguée. J'ai plus d'argent, on n'a plus un sou, je sais pas, on a entendu Pétain hier et on repart dans l'autre sens, de toute façon on a nulle part où aller et on repart dans l'espoir de trouver notre chez nous, j'en sais rien, je sais pas.
Alors beaucoup sont partis dès ce matin à l'aube et tout au long de la journée, quelques-uns s'apprêtent même à prendre la route. Maintenant, ce soir, l'autre image marquante ici, eh bien, c'est le soulagement des Poitevins qui assistent au départ des réfugiés. Pierre ne cache plus ses sentiments, marre de devoir distribuer de la nourriture, marre d'y être obligé par les autorités, marre tout simplement d'héberger tous ces gens.
On a d'abord eu les Lorrains, ensuite on a eu les Belges, et là on a les Parisiens depuis le début du mois. Donc là, je pense qu'il est temps qu'ils commencent à rentrer chez eux, tous ces gens-là, quoi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'ils demandent tous du pain et de l'essence, gratuitement en plus. Donc nous, au bout d'un moment, on a plus rien à leur donner, quoi.
Et puis dans un hôtel du centre-ville réquisitionné, vous avez le gouvernement belge en exil qui fait également ses valises. Après la capitulation du roi Léopold de Troyes, les dirigeants avaient décidé de poursuivre le combat depuis la France, depuis Poitiers. Eux aussi ont entendu le maréchal Pétain hier, alors eux aussi partent, mais à Londres, pour continuer à se battre.
Merci Emmanuel Renard, en direct de Poitiers. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir, en ces heures graves du 18 juin 1940.
Juste après, le débat du soir avec Catherine Ney et Claude Askolovitch.
Sans oublier le temps prévu pour demain, 19 juin 1940, avec Laurent Cabrol.
Édition spéciale, 18 juin 1940.
Et tout de suite, le temps pour demain, 19 juin 1940, Laurent Cabrol.
Eh bien, tout se confirme ce que je vous disais ce matin, à savoir que les routes de l'Exode qui convergent toutes vers le sud sont sous la pluie. Actuellement, vous qui traversez la Loire, vous allez vers les régions du sud, vers Lyon ou Bergerac, sous des intempéries sur ces chemins où vous circulez avec peine en poussant les derniers bagages emportés à la hâte. Le gouvernement est à Bordeaux où il pleut, où il pleuvra encore cette nuit, puis une accalmie demain. Dans le golfe du Lion, un temps calme, les intempéries intempéries d'Espagne débordent sur Perpignan, mais le soleil est là vers Menton, où l'armée italienne tente une percée depuis son entrée en guerre. Sur les régions de la moitié nord, les régions envahies, le ciel est plus serein, et demain, nous aurons du soleil à Paris, 16 degrés au petit matin, 25 degrés l'après-midi. Forte chaleur dans l'Indre, à Châteauroux, avec 27 et 28 degrés. À Rennes, les Allemands y sont depuis quelques heures, le temps est plus clément, 25 degrés demain, 19 juin. Voilà pour l'essentiel, d'une manière générale et pour les jours à venir, vous allez, vous qui circulez en ce moment vers le sud, vers des cieux plus cléments et plus accueillants. Bon courage.
Merci Laurent Cabrol.